Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jour 6 de la guerre entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce qui est important de savoir ce matin? Tout d'abord, le gouvernement israélien est maintenant formé des partis d'opposition. C'est un gouvernement de guerre. Et le premier ministre Netanyahou et son rival de l'opposition ont annoncé hier que ce gouvernement d'urgence, ce cabinet de guerre, allait durer tout aussi longtemps que cette guerre avec le Hamas et que l'objectif est de détruire le Hamas clairement. Et je reprends les propos de Netanyahou. Il a dit « Si vous êtes membre du Hamas, vous êtes mort et nous allons vous pourchasser jusqu'à la fin ». Entre-temps, des opérations de bombardement se multiplient et des immeubles où on trouve des civils, des hôpitaux, sont littéralement détruits par l'armée israélienne. Il y a 300 000 réservistes qui ont été déployés, beaucoup le long de la frontière avec Gaza, ce qui confirme de plus en plus l'option de l'offensive terrestre menée par Israël. Et aussi, du côté nord, frontière du Liban, où le Hezbollah a lancé quelques roquettes du côté israélien. Quand vous regardez le bilan, c'est autour de 1200 personnes tuées du côté israélien et à peu près le même nombre du côté palestinien. D'ailleurs, il y a des pays qui commencent à lever la main pour provoquer une discussion diplomatique pour que les tueries cessent. Le Brésil qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge qui est en contact avec le Hamas, essayer d'obtenir la libération des otages. Il y en aurait encore possiblement une centaine. Il y en a un peu moins de 100 qui ont été identifiés. Donc, des otages capturés en fin de semaine. Et aussi établir un corridor avec l'Égypte pour permettre l'évacuation de Gaza des gens qui veulent quitter. Parce que pour l'instant, c'est impossible. Gaza est entouré. Personne n'arrive à quitter vraiment. Et les bombardements continuent. On arrive à déplacer les gens à l'intérieur du territoire, trouvant des refuges, mais c'est nettement insuffisant. Puis au moment où je vous parle, on constate des problèmes majeurs d'alimentation en électricité, en eau, en nourriture, en médicaments, donc les premiers besoins qui ne sont pas comblés. Et quand vous regardez la situation ce matin de façon très claire, il y a probablement trois enjeux. D'abord, le premier, c'est que jour après jour, on constate la brutalité, les actes barbares commis par le Hamas au cours de la fin de semaine. Vous avez cette troisième Canadienne, on a vu le témoignage de proches hier, où on raconte qu'elle a été tuée devant ses enfants. Et quand je parle de ses enfants, ce sont des bébés, ses deux fils, âgés de 4 mois et demi seulement, et l'autre a 4 ans et 4 mois et demi. Et la mère a été tuée alors qu'elle tentait de protéger ses enfants. Elle a eu le réflexe d'avertir son mari de pas se présenter, ce qui lui a sauvé la vie. Et en plus, on a attaché des explosifs après le corps de cette femme-là qu'on a placé sous le lit d'un des deux enfants en se disant « si quelqu'un vient la chercher pour la déplacer, tout va sauter ». Et ces témoignages-là se multiplient. Je vous parlais plus tôt cette semaine d'une petite communauté, un kibboutz, où il y a eu un massacre, et on est encore en train de compter les morts, c'est le kibboutz de Berry, qui est une espèce d'enclave ou un oasis de verdure, une espèce de, comme on dit, on pourrait faire ça, une espèce de comparatif avec une ville de banlieue. Puis les gens, c'est samedi, puis ils sont tranquilles, ils sont chez eux, et ils se réveillent tout doucement, en famille, quand arrivent ces commandos et sèment la mort. C'est à peu près 1000 personnes qui vivent là, et il y a au moins 120 personnes qui ont été tuées. Donc, premier constat qu'on fait, l'horreur se précise, puis je mets de côté tout ce qui est faux, là, les fausses images, les faux documents qui circulent sur le web, parce qu'il y en a plein, là, des images qui datent de d'autres événements, des images tirées de jeux vidéo, c'est du grand n'importe quoi, et des faux reportages de CNN, c'est assez hallucinant. Donc, le premier point. Le deuxième point, c'est la crise humanitaire. Là, c'est de plus en plus majeur pour ce qui est de Gaza. Et jusqu'à quel point l'armée va frapper et jusqu'à quel point des civils palestiniens vont perdre la vie. Et l'autre préoccupation, est-ce que c'est un conflit qui peut s'élargir? Je parlais du Hezbollah avec le Liban. Est-ce que ça peut dégénérer? En France, on parle d'actes d'antisémitisme, une centaine environ. Il y a beaucoup de préoccupations parce que ça polarise. Et même ici, on sent vraiment l'espèce d'affrontement. Tous les jours, je reçois des courriels, mes collègues également, je vois ce qu'a écrit Patrick Lagacé ce matin. On essaie de donner à peu près tous les angles. On ne dit pas qu'on est parfait, là, mais de se contenter d'exposer les faits puis d'avoir des perspectives. Puis au fur et à mesure, de donner différents points de vue. Mais malgré ça, c'est clair qu'on reçoit des courriels de bêtises en disant qu'on protège Israël, qu'on est des islamo-gauchistes. Je peux lire à peu près n'importe quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de regarder les faits, parce que en moins d'une semaine, il y a quand même 2500 personnes qui sont décédées sur ce territoire. Et puis, on se demande, et on a posé la question hier, pourquoi le Hamas a décidé de se livrer à ce genre d'opération en sachant que la réplique d'Israël serait brutale et sans appel? Il y a des gens qui analysent, ce matin, le New York Times propose une piste de réflexion, c'est un peu la suivante. L'idée, c'était d'abord de calmer la population, en fait, calmer les militants du Hamas qui n'en peuvent plus de vivre dans cette prison clôturée et de ne pas pouvoir en sortir. Premier élément. Le deuxième, c'est de montrer à Israël que le Hamas est capable de frapper sur leur territoire, les ébranler, leur faire peur, en posant des gestes qui sont barbares et des gestes qui peuvent choquer pour ultimement provoquer la confrontation finale avec l'État d'Israël. C'est une idée, c'est une approche. Faut voir, évidemment, pour la suite des choses. Et puis, pour ce qui est de l'évacuation des Canadiens, là, il semble que ça pourrait commencer bientôt. Je reçois des courriels de gens qui sont là-bas, qui, pour tout vous dire, n'attendent pas après le gouvernement canadien, parce qu'on sait qu'il y a eu des ratés en fin de semaine. Là, on a en fait mobilisé les forces armées canadiennes. Donc, ce sont des avions de l'État qui vont aller chercher les gens. Puis après ça, il y a un transit par Athènes. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Puis des gens là qui communiquent encore avec l'ambassade canadienne, pas capable d'avoir de réponse. Je le dirai jamais assez, c'est pathétique, les services offerts par des consulats ou encore par des ambassades canadiennes à l'étranger. Bon, voici le cas qui est rapporté par le Journal de Montréal. C'est un homme de 22 ans qui souffre de schizophrénie. Et en principe, il était sous la supervision de l'hôpital Cité de la Santé à Laval. Il s'est évadé 4 fois en 2 mois, dit le Journal de Montréal, et en aurait profité pour attaquer une femme sur la rue il y a environ 3 semaines. Alors, il fait l'objet d'une garde légale depuis qu'il a agressé une femme en juin 2020. On lui a fait passer des tests, une analyse, verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Et là, comme on le voit souvent, le dossier évolue, puis on donne des permissions, une sortie d'une demi-heure. Le gars se pousse. Ce qui est assez spécial, c'est qu'on a rapporté sa disparition, paraît-il, 2 heures plus tard. C'était de la santé, le dit que c'est pas ça, là, mais ça a pris du temps avant qu'on signale qu'il avait quitté. Et finalement, en soirée, il a ciblé une femme de 46 ans, l'a pris au cou, l'a forcé à se coucher au sol et semble-t-il qu'il a tenté de l'agresser. Ça, c'est un cas. Ce que ça soulève comme question, est-ce qu'un gars comme ça, c'est normal qu'il se retrouve à la Cité de la Santé? Est-ce que la Cité de la Santé de Laval est équipée pour gérer ce genre d'individu? Ça, c'est la première question. La deuxième, parce qu'il y a eu, semble-t-il, une mise à pied, là, congédiement. Comment se fait-il qu'on n'avait pas d'informations à donner sur la façon dont le gars était habillé? Ça a l'air que les policiers ont pataugé là-dedans. Puis savez-vous quoi? C'est tellement difficile d'avoir des informations depuis hier, là. Tout le monde se protège un peu dans ça. Mais la conclusion, c'est qu'on a un agresseur sexuel de la Cité de la Santé à qui on faisait confiance malgré ses fugues, puis il s'est poussé pour aller agresser une femme sur la rue. Quelqu'un choisi au hasard. Troisièmement, c'est tout le processus qui mène à l'évaluation et aux permissions accordées. On est tous là pour la vertu, puis donner une chance, puis quelqu'un a le droit, puis s'il est suivi, puis encadré. Et là, vous avez la commission d'examen qui est responsable d'évaluer si quelqu'un est dangereux, quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Le président a dit qu'ils n'ont pas toujours l'information sur les antécédents judiciaires. Et moi, j'ai vu des causes là où, entre ce que les intervenants de première ligne qui passent leur temps avec les patients disent, puis comment c'est vu par les psychiatres, puis comment c'est vu après ça par la commission, ce qui mène à des aberrations. Je vous raconte une autre histoire qui n'est pas dans les médias, puis je vais faire attention pour protéger l'identité. Mettons, une jeune femme mi-vingtaine. En 2018, on l'accuse de tentative de meurtre. Elle est reconnue non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Elle a planté un couteau dans le dos d'un gars. Puis elle a un long, long historique de problèmes de santé mentale, de prostitution, tout ce que vous voulez. Là, c'est une vie de misère. Et durant son séjour à Pinel, cette fois, il y a des épisodes de fugue. Et c'est documenté. Elle se pousse. On la retrouve ou elle revient, elle se pousse, ce n'est que ça. Finalement, le printemps dernier, en fait au début de l'année, cette année, là, 2023, elle profite d'une sortie pas accompagnée, malgré là, le fait qu'elle se pousse régulièrement, là, et fugue à au moins deux reprises. Le comité, ça c'est au début de l'année, là, le comité de sortie de l'Institut l'autorise en juin aller prendre une marche de quelques heures sans être accompagné. L'équipe plancher dit « Faites pas ça ». Ils font pareil. Elle se pousse, on la retrouve à Toronto. Elle est accusée de meurtre. Encore là, on est d'accord pour qu'il faut aider les gens, puis est-ce qu'on l'envoie dans un logement supervisé, pas supervisé? Mais de remettre en liberté, sans surveillance, des gens qui sont dangereux, veut pas, on se pose la question. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous n'avez pas de ressources. Faut les faire sortir au plus vite. On pense que c'est la meilleure chose. Je dis pas qu'il faut enfermer les gens à vie. Et je dis pas non plus que tous les cas sont pareils. Mais là, ça fait quand même des cas où des innocents, des cibles comme ça sur la rue, sont choisis par des patients qui devraient pas être sur la rue. Et je vous le dis, là, je le sais que c'est très délicat parce que les psys se poussent pas mal, puis personne ne veut répondre, ministère de la Santé, mais ça mérite réflexion. Parce que là, c'est deux cas dont je vous parle ce matin. La Ville de Montréal doit se serrer la ceinture. Hier, on nous a dit que, alors qu'on prépare le budget, il faut faire des compressions d'une centaine de millions, là, parce que les revenus sont pas au rendez-vous. Et là, c'est le gel des embauches. Là, c'est un peu là. OK, la Ville n'embauche plus personne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ce sont des dépenses prévues qu'on annule? Est-ce qu'il y a des budgets qui vont être coupés? On comprend là que les taxes de bienvenue ne rapportent pas comme avant, en raison de l'état du marché immobilier, qu'il y a de l'inflation, que tout coûte plus cher, et que donc la Ville qui prépare le budget. Et c'est pour ça que j'attire votre attention ce matin sur deux éléments. Le premier, OK, la Ville n'a pas les revenus, puis Mme Olivier dit qu'elle doit réduire les dépenses. On veut voir le plan, puis on veut essayer de comprendre l'impact sur les services de la Ville. Pis c'est pas tant que ça, là, quand vous regardez, là, c'est une centaine de millions sur le budget de la Ville de Montréal, on viendra pas fou. Puis un paquet de postes de cadres qui n'ont pas été comblés. Question que tu peux te poser, on a-tu besoin de les combler? Il y en a quoi? Je pense 150 environ. Deuxièmement, préparation du budget. Déjà, les arrondissements gloutons sont en train de vous épicer votre compte de taxes de l'arrondissement. Et je connais la rhétorique, là. Ils haïssent ça, on n'aime pas ça, augmenter les taxes. mais on est obligé de le faire. Mais le citoyen qui voit le compte arriver, des augmentations jusqu'à 15 %, ça s'ajoute au reste, à son hypothèque, à sa facture d'épicerie. Ça commence à serrer un peu dans le cou. Et là, la ville se prépare. Puis on a deux versions. Madame Plante qui dit, je peux pas vous garantir que ça sera pas supérieur à l'inflation. Madame Olivier, quelques heures après ça, dit, non, moi je pense qu'on va être capable de contrôler ça. On sait pas trop qui dit la vérité dans ça. On va la recevoir ce matin, la présidente du comité exécutif de la ville de Montréal. Dans les autres nouvelles, il y a un plan d'action sur le français. C'est dans la presse que vous retrouvez ça. Du ministre Jean-François Roberge. Marquez que c'est une opération avec plusieurs ministres. Mais en gros, ce que Québec veut faire, c'est de forcer un meilleur équilibre entre les étudiants qui fréquentent des universités anglophones puis le secteur francophone. Comment tu fais ça? Ben, ça coûte pas mal plus cher aller chez les Anglos quand t'es un étudiant étranger que d'aller dans une université francophone. Il y a vraiment un déséquilibre. Puis on pense qu'avec l'argument monétaire, puis on sait, là, c'est hyper payant pour les universités, pas pour rien qu'il y a autant d'étudiants étrangers. Donc, on veut rendre ça plus difficile pour ce qui est des admissions à McGill et amener des étudiants étrangers vers les universités francophones. L'autre chose, comprendrez qu'on va avoir des doutes, mais on veut forcer plateformes comme Spotify et Netflix à mettre en évidence le contenu québécois. Je vous rappelle que le fédéral est encore en train de se battre avec Facebook et les autres là, pour que le contenu ne soit pas gratuit et que cette décision, cette loi votée par le Parlement fédéral amène un boycott des informations, du contenu québécois, du contenu canadien, des médias d'information. Alors, comment Québec peut forcer, puis là, on peut suggérer, mais que quand vous allez ouvrir Netflix, il va y avoir une vitrine de produits québécois. Quand tu vas sur Crave, il y a une vitrine là qui n'est pas, disons, au premier plan, pour des émissions francophones. Mais là, le ministre Roberge est bien conscient, il nous dit, on vous forcera pas à écouter des produits francophones. On remarque que les jeunes qui sont sur Spotify, qui écoutent pas ben la radio, ben, ils écoutent plus de musique anglophone. Le partage et l'écoute du contenu québécois, francophone, est très faible. Peut-être que ça les intéresse plus ou moins aussi. Alors, comment tu veux protéger le français avec une approche plus agressive, tout en respectant le choix des consommateurs qui ont envie d'écouter une série suédoise, qui ont envie d'écouter un film qui a été fait en Angleterre, bref, puis de la musique qui vient d'ailleurs, puis en même temps t'assurer d'une visibilité pour les produits québécois. Et puis, il y a le Parti libéral qui a déposé son rapport, son comité de relance. Qui sommes-nous au Parti libéral du Québec? Pas facile comme réponse. En gros, nous sommes des libéraux fédéralistes et nous avons des valeurs historiques que nous allons maintenir. La liberté, les choix individuels et l'interculturalisme. C'est pas du multiculturalisme, c'est de l'inter. Donc, tu lis tout ça, c'est intéressant, là. Mais la question fondamentale, là, l'électeur, là, que vous avez perdu, le francophone, c'est quoi le message que vous lui envoyez? Vous avez pas de chef, il y a personne qui lève la main. Le seul qui a levé la main est expulsé du caucus. Puis on sait pas exactement là où vous en allez avec vos skis. Moi, j'ai lu ça hier. Je dis, OK, c'est parfait. Non, mais je reconnais le travail, je reconnais l'effort. Il y a une réflexion qui a été faite. Mais on est quand même assez loin de quelque chose de concret. Et ce qui explique encore les déboires du Parti libéral. Et puis, rapidement, juste finir avec ça. Des employés, c'est dans le Journal de Montréal, de la Société d'assurance automobile du Québec songent à démissionner. Ils sont tannés du système, le nouveau système CLIC. Ils trouvent que ça va pas très bien. Ils se font engueuler par les citoyens. Et depuis que le nouveau système est en place, hausse de l'anxiété de quand même importante et 60 % songent à quitter le navire. Bon, c'est un sondage du syndicat, là, mais quand même. Puis là, savez-vous quoi? Radio-Canada nous apprend ce matin que Québec va embaucher des pirates informatiques pour tester ses systèmes. Parce qu'il y a tellement d'attaques. On va aller voir les pirates pour essayer de se protéger contre d'autres pirates.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
La Ville de Montréal doit faire des compressions budgétaires. On prépare aussi le budget de l'an prochain. Et avec nous en studio pour en parler, la présidente du comité exécutif et responsable des finances de la Ville, Dominique Olivier. Madame Olivier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Vous cherchez à récupérer combien d'argent?
Ce qu'il faut comprendre, M. Arcand, ce qu'on a annoncé hier, c'est un plan préventif. On suit de façon continue les finances de la Ville. On avait un état, mettons, au 30 juin, on en avait un autre au 31 août. Quand on a regardé l'état au 31 août, on a dit « Oh, ça va être serré ». Est-ce qu'on peut s'assurer de prendre les bonnes mesures pour être sûr qu'on finit l'année dans l'équilibre et qu'on préserve nos marges de manœuvre pour pouvoir faire les opérations qu'on a besoin de faire l'année prochaine.
OK, mais je repose ma question. Vous avez besoin de combien?
Écoutez, à l'heure actuelle, on est dans le positif de 40 millions. Idéalement, ça me prend à peu près 100 millions à la fin de l'année de surplus pour être capable d'être sûr que je peux prévoir la neige, pour être sûr que je peux prévoir les événements climatiques qui s'en viennent, que je peux m'occuper du paiement de la dette puis garder un petit peu d'argent de côté.
Ce 60 millions-là, disons, ou 80 millions qui manquent, là, vous pensez récupérer comment?
Ben, c'est ce qu'on a annoncé hier, c'est ce qu'on a appelé un plan de resserrement des dépenses. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a un certain nombre de postes vacants à la Ville maintenant. On en a ciblé 400, qui sont des postes non opérationnels. Ça veut dire que ça change rien dans les bibliothèques, ça change rien dans le ramassage des ordures, ça change rien.
J'allais vous dire, ça fait longtemps qu'on aurait dû les abolir, ces postes-là, si ça sert à rien.
Non, c'est pas qu'ils servent à rien. Ce sont des postes qui ne sont pas comblés. Je vais vous donner un exemple.
Mais ça change rien au service, vous me dites.
Non, au service aux citoyens, mais ça peut changer au service global. L'exemple que je peux vous donner, qui est le meilleur, c'est celui de nos informaticiens. J'avais de mémoire une cinquantaine de postes vacants en informatique chez nous. Imaginez-vous, ça veut dire que toutes les transformations qu'on doit faire avec nos systèmes, nous, on a des vieux systèmes. Hein. Moi, j'étais à Polytechnique dans les années 80. J'ai appris à programmer en COBOL. Il y a encore des programmes qui se programment en COBOL à la Ville. Il faut qu'on modernise tout ça. Ben ça nous prend du monde pour le faire. Mais le marché, à l'heure actuelle...
Mais vous allez les combler plus tard, ces postes-là?
On va les combler plus tard, au fur et à mesure
qu'ils se comptent. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des postes là qui vont disparaître puis que dans le fond, ça change pas grand-chose à la Ville, puis au service aux citoyens, puis qu'on pourrait faire disparaître à jamais?
Écoutez, ceux-là, on les cherche. Je vous souviens, je vous avais dit qu'on faisait un grand chantier sur la fiscalité. Un des volets, c'était de regarder service par service, programme par programme, est-ce que c'est vraiment nécessaire ce qu'on fait? Mais vous comprenez que sur un budget de 6,7 milliards, 28 000 employés, faire le tour, regarder ce qu'ils font vraiment les activités, est-ce que ça prend vraiment 4 personnes pour faire ça, est-ce qu'on pourrait le faire à 3, ça prend du temps. C'est l'exercice qu'on fait maintenant.
Qui va être terminé
pour optimiser. Moi, je veux qu'il soit terminé. On l'a commencé cette année. Moi, je veux qu'il soit terminé au moment où je vais préparer le budget de 2025. Donc, on aura fait tous les services. On en a fait quelques-uns, là, mais là, on va voir, on continue.
Est-ce que, si vous me dites que vous avez fait un certain nombre de services, il y a des emplois qui ont été coupés dans un certain nombre de services?
Les emplois n'ont pas encore été coupés, mais il y a des emplois qui vont être transformés. Donc, on se rend compte que le marché de l'emploi évolue. Il y a peut-être des types d'emplois qu'on faisait de certaines façons. Que si on peut finir notre programme informatique, ça va pouvoir être informatisé.
Mais en fait, ma question,
va pouvoir aller plus loin.
Ouais, pour être plus clair, est-ce qu'il y a des employés de la Ville de Montréal qui vont perdre leur emploi?
À l'heure actuelle, non. Avec le plan de resserrement qu'on annonce, non. On est strictement sur des postes qui sont vacants.
Mais c'est un peu, c'est une image, c'est un exercice comptable. C'est-à-dire, on les comble pas maintenant, mais on va les combler plus tard. Pour que le budget marche.
On va les combler plus tard, peut-être pas tous. D'abord, il y a une question de marché. Je vous donnais mon exemple d'informaticien. Il y a une question de marché. Peut-être qu'on n'arrivera pas à les combler. Mais l'autre chose, c'est qu'on s'assure à l'heure actuelle, puis c'est l'exemple que je donnais hier. Mettons qu'il y a dans un service 2 adjointes administratives pour 8 personnes. Il en reste juste une. elle fait le travail quand même au moment où on se parle. Ce qu'on va lui demander, c'est de faire un effort de continuer à faire le travail parce que tout de suite, on comblera pas ce poste-là, par exemple.
Mais éventuellement, vous allez le combler.
Selon les choix prioritaires qui sont faits.
Je comprends, mais là, c'est pas, disons, massif comme coupure là, sur un budget de plusieurs milliards, comme vous le dites. Là. Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des services aux citoyens qui vont être touchés?
Non, non. Notre engagement, c'est de pas toucher, pas de coupure d'heures de service, pas de réduction dans la collecte des ordures, pas de retardement dans le déneigement s'il se met à neiger. On va vraiment donner tous les services. Pas l'émission des permis, vous le savez comme moi, il y a plusieurs gens qui attendent des permis, que ce soit pour changer des fenêtres ou pour construire des immeubles. On va continuer
vous
tous les services aux citoyens.
Vous allez couper ces dépenses-là, puis ça apparaîtra pas.
On va non, je vous dis pas que ça paraîtra pas.
C'est, ben,
je
vous dis que ça
paraîtra pas dans le service aux citoyens, okay. Mais on a quand même de la planification. On a des grands projets qui s'en viennent. Hein. On peut penser par exemple à la ligne bleue. On peut pas couper les gens qui planifient l'implantation de la ligne bleue, sinon on le verra jamais ce métro-là.
Vous savez que je suis tordu de nature un peu.
Ben je suis contente que ce soit vous qui le disiez, pas moi.
Parce que je sais que vous le pensez, mais j'ai l'impression que vous nous arrivez avec des coupures qui en sont pas vraiment pour nous préparer au budget que vous allez déposer pour augmenter mes taxes.
Ah non, mais Monsieur Arcan, en effet, c'est je vous l'ai dit, je travaille très très fort. Le défi qu'on a chaque année quand on commence le budget, puis on avait été la première administration à être transparente là-dessus. En pleine campagne électorale, Monsieur Doré avait sorti son cadre financier, il avait dit il manque 200 millions pour boucler le budget de la ville. J'étais un peu comme vous, j'étais pas en politique dans ce temps-là. Je me disais, ouais, mais finalement, ça doit s'arranger, ça doit se trouver. Laissez-moi vous dire, depuis 2 ans, je vois clairement où ils sont. Et c'est pour ça qu'on fait le chantier sur la diversification des revenus. C'est pour ça qu'on demande à Québec de renégocier, pas nous seulement, okay, mais toutes les villes, le pacte fiscal.
Mes auditeurs ce matin qui vous écoutent, là, qui payent des taxes, oui, à Montréal, ont entendu, oui, Mme Plante dire, pas certain qu'on va être capable de garder l'augmentation au niveau de l'inflation. Puis vous, vous êtes passé en arrière après, puis vous avez dit non, on va se limiter à l'inflation. Est-ce que je crois la mairesse ou je vous crois?
Ben, vous pouvez nous croire toutes les deux.
Ben,
elle a dit
chose.
Qu'elle était pas certaine. Moi, ce que j'ai dit, c'est je suis certaine.
OK, ben donc, j'ai
donc,
alors, est-ce
je
que je crois la mairesse qui est pas certaine?
Je
ou vous?
Suis affirmative, je suis affirmative. Je pense que Mme Plante avait fait la chose responsable, parce que c'est moi qui suis encore en train de tricoter le budget.
Okay,
mais l'orientation est claire, notre orientation est claire. Il faut qu'on arrive, l'inflation observée était à 5,2. Il faut qu'on arrive à être en bas de ça. Puis, moi, je pense que la capacité
ça
de payer des Montréalais, ça comprend la portion de taxes qui va aux arrondissements.
Parce que vous avez quelques gloutons dans les arrondissements, là, en joue 15 % d'autres à 9 pas à 10.
Oui.
Je comprends que c'est une partie plus
c'est
faible.
C'est juste une petite partie
mais,
du total
quand
du
même,
compte de taxes.
C'est toujours,
oui,
le même clown qui paye en bout de ligne. Là.
On est d'accord. On est d'accord. Et c'est pour ça que nous, pour protéger le portefeuille des Montréalais, pour protéger la capacité de payer, on le fait. Le fait est qu'on a quand même, vous serez d'accord avec moi, des défis. L'itinérance. Est-ce que demain matin, je vais avoir une autre pluie diluvienne qui va inonder tout un quartier. On l'a vu récemment. Est-ce que je vais avoir une autre tempête de verglas qui va me demander de ramasser des branches? Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Donc, il faut à la fois faire l'exercice de dire, écoutez, je prévois dans mon budget ce qui est nécessaire pour justement l'imprévu, donc des contingences, mais en même temps, je donne mes,
oui,
services
mais
aux citoyens.
Ce que les gens se demandent aussi, c'est est-ce que on est efficace? Je comprends les imprévus, là,
oui,
plus de neige, des,
oui,
branches, le bon.
Oui.
Tout ça est vrai, là. Mais est-ce que la machine administrative
est efficace?
Est-ce que j'en ai pour mon argent? Je suis pas tout le temps convaincu de ça que j'en ai pour mon argent.
Ben ça, M. Arcan, on va être d'accord pour être en désaccord. Parce que moi, je vous le dis, moi aussi, je suis propriétaire. Vous l'êtes, ma mère l'est. Je vous le dis, tout le monde l'est. Tous les propriétaires, on a cette inquiétude-là. Mais quand je regarde, et je vous l'ai déjà dit, mon compte de Vidéotron, mon compte d'Hydro-Québec, mon compte d'énergie, tu sais, ça monte. Mon compte de taxes, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que la ville fait pour moi? Elle me donne des bibliothèques, elle me donne des centres sportifs, elle déneige, elle ramasse les ordures, elle contrôle ce qui se passe, j'ai de la sécurité. Je veux dire, j'en ai des services pour mon argent.
Mais vous sentez le besoin de faire un chantier, c'est que peut-être vous croyez vous aussi que vous avez pas, n'en avez pas tout à fait pour votre argent.
Non, moi je pense que toute organisation moderne doit viser à se transformer, doit viser à être le plus efficace.
Est-ce que c'est un show de boucan?
Non, c'est pas un show de boucan, je vous le dis. Honnêtement, c'est pas un show de boucan. J'étais la première. quand j'étais de votre côté, je dirais, pas du micro, mais de votre côté du citoyen, à me dire, il y a sûrement des choses qu'on coupe. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'employés. Oui, ça se peut qu'on ait des anecdotes qui se passent quelque part, puis celles-là, on les traque. Et s'il y a des gens qui pensent qu'il y a du monde inefficace, qui m'envoient un courriel, puis qui me disent, regardez donc tel service ou telle affaire. Mais de façon générale, nos employés sont excellents, ils font le travail qu'ils ont à faire, et il faut juste qu'on s'assure qu'on leur donne les conditions nécessaires pour qu'ils le fassent de la façon la plus efficace possible. Mais c'est du monde dédié aux citoyens. Il faut quand même qu'on se le dise.
C'est pas ça qui remet en cause. C'est souvent l'efficacité de la machine. T'sais, des fois, là, faire, défaire, je parle juste au niveau des travaux, par exemple, la Commission des services électriques, la Ville de Montréal, Hydro-Québec, Énergir, puis tout ça.
C'est pour ça qu'on a créé des façons maintenant de se coordonner tout le monde, puis que des fois, on va retarder des travaux. Mais voyez, c'est toujours le fou la poule. Est-ce que je répare les nids de poule tout de suite, je resurface, quand je sais que l'année prochaine, Hydro-Québec va venir, puis ils vont vouloir changer quelque chose.
Il y a un chroniqueur dans la presse qui a titré la deux reprise, je pense. Oui. Est-ce que j'en ai pour mon argent? Qui a pu observer de son balcon des travaux qui ont, en fait, on ouvre la rue, on referme, on rouvre. N'importe quel citoyen qui voit ça, il n'a pas à comprendre tous les mécanismes. Il dit, c'est du gaspillage. Pourquoi ils ne sont pas plus synchro dans leurs affaires?
Je serais d'accord avec vous si c'était pas justement anecdotique. C'était pas une personne de son balcon qui me le dit. Si j'avais
bon, vous en trouvez pas
sur
mal, moi,
1500 rues, tu sais, je veux dire, regardez tout ce qu'on a comme kilométrage dans le réseau public. Tu sais, si j'avais 1500 personnes qui me disaient c'est ça que c'est passé devant chez moi, de rues différentes, là, je dirais faut qu'on regarde ça. Mais si on le regarde dans un échantillon, ça se peut qu'il y ait, je sais pas, 1% des travaux qu'on fait qui demande qu'on s'améliore là, dans notre coordination de travaux. Okay. Ça peut arriver. Mais de façon générale, je pense que les grandes artères sont faites correctement, sont pas refaites à l'identique, puis on s'arrange pour que ce soit pas faites, et ainsi de suite.
Mais les chantiers, puis là, je parle pas juste ceux de la ville. Là.
Oui.
Chantier privé, c'est assez long des fois. Tu te demandes, maudit, qu'est-ce qu'ils font, là?
Effectivement.
Des tas de roches qui sont là, pas touchées pendant des semaines. Pis...
Effectivement. Mais je pense qu'à un moment, vous aviez eu, je sais pas si c'était vous ou quelqu'un d'autre qui avait parlé d'un cône orange du MTQ qui était resté là sur une voie publique pendant longtemps.
Un orphelin.
Oui. Nous, on essaye d'être le plus efficace possible. Puis je pense que c'est ça qui doit être notre objectif, okay. D'être le plus efficace possible.
Quand vous êtes venu la dernière fois, on a parlé des primes pour les cadres.
Oui.
En gros, il y a 1700 cadres à peu près à la ville.
Oui.
Puis j'ai regardé, il y a 150 postes vacants.
Oui.
À peu près. Ces postes-là, ils seront pas comblés donc.
Théoriquement, non, à moins que ce soit des postes opérationnels. Donc, okay. Si c'est un contremaître, par exemple, sur des travaux, oui, ça pourrait avoir un impact sur le citoyen. Mais tous les postes qui sont pas opérationnels, qui n'ont pas d'impact sur les services aux citoyens, directement vont être coupés.
Et sur les 1700, à partir de vos chiffres, là, il y en a seulement environ le 120-125 cadres qui n'ont pas eu un boni complet.
Ah, il y en a plus que ça. Oh, il y en a 120 qui ont eu moins de 2%. Vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était entre 2 et 6.
Nombre de cadres, aucun boni, 6.
Oui.
OK. Nombre de cadres avec moins de 1%, 3. Puis un boni entre 1 et 2, 108.
Voilà.
Bon, mettons que ça fait pas loin de 120.
Oui.
OK. Sur 1700.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce monde-là, pour pas avoir de boni, si tout le monde-là?
Ben, peut-être qu'ils sont plus à l'emploi de la ville aujourd'hui. Okay, je vous avoue, je connais pas leur nom.
Donc, ça veut dire que tout le monde a un boni.
Ben, ça veut dire que la majorité des gens ont un boni dans la moyenne de 3%.
Ça, c'est de la rémunération différée. C'est-à-dire qu'on le donne pas sur la paye, mais on leur fait un chèque à un moment donné, peu importe la performance. C'est pas lié à la performance.
Ben, c'est lié à la performance parce qu'on on va recevoir jusqu'à 6%. C'est pas tout le monde de 6%. Il y en a qui ont 3. Il y en a qui ont 2.
Ouais, mais il y en a 125 sur 1700, on s'entend-tu que...
Qui ont moins que 2. Je suis d'accord avec vous, qui sont pas performants, mais j'ose espérer comme organisation, hein, responsable des ressources humaines, que mon monde y est performant, qui fait du travail, qui fait ce qu'il a à faire. Mais si les gens le font pas au point de pas avoir leur boni, il faut effectivement se poser des questions.
Un jour, j'ai reçu Pierre-Carl Péladeau.
Oui.
Puis il y a des bonnies, lui aussi, pour les VP et tout ça, le Québécois et tout ça. Puis lui, il trouvait qu'à un moment donné, les bonnies, c'était comme automatique, puis c'était pas lié au rendement. Qu'on avait besoin d'avoir des paramètres, puis dire, est-ce que, oui, tu mérites un bonnie cette année? Peut-être pas, peut-être oui l'année prochaine. Mais dans votre cas, ça a l'air automatique.
Écoutez, Moi, je sais que ça fait partie des conditions de travail. Pour avoir déjà été cadre à la ville, je sais que ça fait partie des conditions de travail. Mais j'ai eu à évaluer du monde. Et il y a des années où j'ai donné 2, puis il y a des années où j'ai donné 4. Puis, tu sais, il y a vraiment un vrai processus d'évaluation. Il y a des attentes qui sont signifiées. Puis on regarde la première année, c'est noté par écrit. Puis ensuite, on regarde l'année suivante. Avez-vous réalisé ce qu'on vous avait demandé? Vous êtes-vous amélioré dans ce qu'on vous avait demandé? Puis le boni de l'année suivante est évalué à partir de cette question-là.
Donc, mon compte de taxes, les comptes de taxes des auditeurs, ça monte pas plus que de 5,2.
Pas plus que de l'inflation, oui.
5,2,
je l'ai dit. Ça ne montera pas de plus que 5,2.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif responsable des finances de la Ville de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, jour 6 de cette guerre entre le Hamas et Israël, ce matin, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et le premier ministre israélien Netanyahou ont eu des échanges point de presse dans les dernières minutes. Mais on sait évidemment que dans les dernières heures, les bombardements ont continué des cibles sur le territoire de Gaza, des infrastructures civiles. Et je le disais, de chaque côté, on est pratiquement à 1200 morts. Voilà ce que l'on sait. La Croix-Rouge internationale qui souhaite qu'on puisse établir un espèce de corridor pour permettre l'évacuation des civils qui sont coincés dans Gaza. Faisons le point ce matin sur les derniers développements. Claire Duhamel est avec nous. C'est une journaliste de France 24. Elle est à Jérusalem. Claire Duhamel, bonjour.
Bonjour.
D'abord, peut-être nous faire un bilan de l'opération là de bombardement et de déploiement des troupes le long de la frontière avec Gaza. Les échos que nous avons, c'est que ça s'intensifie jour après jour.
Oui, exactement. Ça a commencé dès dimanche, donc 24 heures après le début de l'offensive du Hamas contre Israël. Moi, j'étais à la frontière avec Gaza jusqu'à hier soir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on entend continuellement le bruit sourd des bombardements qui frappent la bande de Gaza. J'ai beaucoup de contacts sur place qui m'expliquent que la population vit dans l'angoisse totale puisque cette opération, cette contre-opération israélienne, elle fait beaucoup de victimes parmi les civils. On parle d'au moins 1000 victimes à l'heure actuelle. Les Gazaouis, ils vivent sous blocus israélo-égyptien depuis 16 ans. Ils n'ont nulle part où se mettre à l'abri. Alors l'armée israélienne dit qu'elle vise des cibles du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir, mais on sait néanmoins que dans cette zone très densément peuplée, eh bien il y a aussi beaucoup de victimes collatérales civiles.
Donc ça veut dire que ça continue. Je vais parler avec quelqu'un de la Croix-Rouge dans les prochaines minutes. Je veux revenir sur les attaques dans les kibboutz de samedi. Je sais que vous vous êtes pas rendu comme tel dans les kibboutz, mais qu'est-ce que les gens disent sur les crimes qui ont été commis? On donne l'exemple d'un kibboutz où il y aurait 120 morts. Qu'est-ce que vous savez de l'ampleur de ces actes barbares?
Pour les Israéliens, c'est un vrai traumatisme. Je me suis rendue notamment dans la ville de Sderot, qui se trouve à 3 kilomètres environ de la bande de Gaza, et où il y a eu des infiltrations de combattants du Hamas, surtout la journée de samedi, donc le premier jour de l'offensive. On parle d'au moins 1200 morts côté israélien. On parle aussi de 150 otages qui ont été amenés dans la bande de Gaza. Alors, il faut imaginer que les habitants de ces localités aux alentours de la bande de Gaza, ils ont l'habitude des alertes à la roquette, ils ont l'habitude de vivre à proximité de cette bande de Gaza qui peut être une menace sécuritaire pour eux depuis des années, mais ils étaient persuadés qu'ils étaient protégés par non seulement leur armée, mais aussi par une frontière extrêmement hermétique. Les infiltrations, on n'a jamais vu ça. L'armée israélienne a dit avoir trouvé enfin, a dit avoir tué 1500 combattants au moins du Hamas. Alors ça, bien sûr, pour les Israéliens qui vivent aux alentours de la bande de Gaza, ça a été un traumatisme énorme et qui aura très certainement des conséquences très durables dans la société israélienne, dans l'opinion israélienne, puisque vraiment, ils ne s'attendaient pas à un massacre d'une telle ampleur.
Claire Duhamel, merci beaucoup. Elle nous parle en direct de Jérusalem. D'ailleurs, ce matin, entre autres, le New York Times laisse entendre qu'un des objectifs du Hamas, c'était de démontrer à Israël que ce pays n'était pas invincible et en même temps de canaliser toute la colère des Palestiniens en les conditionnant à poser des gestes extrêmement violents, des actes barbares. Et ce que l'on voit d'ailleurs dans les témoignages, puis il faut faire attention, il y a des faux reportages qui sont disponibles malheureusement sur les réseaux sociaux, c'est que dans ces kibbutz où on retrouve 1000, 1500 personnes, il y a des exemples nombreux de gestes d'une violence incroyable. Je pense entre autres à cette Canadienne de la région d'Ottawa qui était là-bas avec ses deux enfants, deux petits garçons, 4 ans, 4 ans et demi à peu près, et l'autre 4 mois. Elle est exécutée devant ses enfants et on a caché le corps sous un lit avec des bombes attachées après elle parce que on s'est dit si quelqu'un veut la déplacer, ça va sauter. Alors, ces informations, évidemment, commencent à nous parvenir du front. Mais pendant ce temps, les bombardements qui sont, je le rappelle, d'une violence, disons, jamais vue, les infrastructures qui sont touchées, on peut penser à des hôpitaux, les contacts qu'on peut avoir avec les gens dans Gaza, ils sont littéralement coincés. Fatima Sattar est avec nous. Elle est du Comité international de la Croix-Rouge. Fatima Sattar, bonjour.
Oui, bonjour Paul.
D'abord, ce qu'on cherche à savoir, est-ce qu'il y a vraiment des discussions pour permettre un corridor afin que des civils puissent quitter Gaza, par exemple en direction de l'Égypte?
Alors, juste une précision. Nous, le Comité international de la Croix-Rouge, ce qu'on demande, c'est une pause humanitaire pour pouvoir faire rentrer des biens médicaux, pour pouvoir aussi déplacer, pour distribuer les biens qu'on a à l'intérieur de Gaza, parce que du coup on est présent, nos équipes sont sur place et actuellement on souhaite pouvoir du coup distribuer tout cela à la population. Pour ce qui est de couloirs humanitaires, évidemment, donc nous en tant qu'organisation purement humanitaire, on ne fait pas partie de négociations autour de couloirs humanitaires, mais par contre, en tant qu'intermédiaire neutre, c'est quelque chose qu'on fait partout dans le monde, partout dans tous les pays où on travaille. On peut tout à fait faciliter des opérations telles que des couloirs, si c'est quelque chose qu'on nous demande de faire.
Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme écho de la situation à Gaza?
Bon, le niveau de violence qu'on voit, on n'a pas vu ça depuis plusieurs années. Actuellement, pendant qu'on est en train de parler, Gaza est en train de perdre l'accès à l'électricité. Ça veut dire qu'en fait, les hôpitaux perdent aussi accès et en fait se transforment très rapidement en morgue. En fait, si on n'arrive pas à remettre l'électricité, à pouvoir, par exemple, nous on a de la chlorine à l'intérieur et donc on pourrait aider par exemple à avoir au moins l'accès à l'eau potable. Aucun parent ne veut donner de l'eau sale à son enfant, qui n'a pas à boire. C'est vraiment une situation complètement affreuse où ces gens se retrouvent. Mais aussi du côté israélien, les personnes n'ont pas de nouvelles de leurs proches, ne savent pas s'ils sont vivants, s'ils vont bien. Le message, si vous voulez, c'est pas nous, on demande, il n'y a pas une hiérarchisation de la souffrance. Il y a de la souffrance des deux côtés, il y a de la souffrance au niveau des civils, et nous, on appelle clairement les parties concernées à respecter le droit international humanitaire pour que la souffrance des civils soit minimisée au maximum.
Maintenant, prenons le cas des civils sur le territoire de Gaza. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des refuges? Je comprends que le territoire est restreint, qu'il est clôturé, mais est-ce qu'ils arrivent à changer d'endroit, à se protéger? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont distribuées vers ces endroits?
Comme vous le savez, on sait que personne ne peut sortir ni entrer. Et aujourd'hui, en fait, la situation est... Et si on continue dans cette situation-là, on rentre clairement dans une catastrophe humanitaire. Ne pas arriver, pour nous déjà, de faire entrer des biens, ne pas arriver à les faire circuler, à ce stade-là, on court clairement vers le désastre. Donc, Aujourd'hui, il faut rappeler que les civils dans le droit international humanitaire ont des droits, sont protégés, doivent pouvoir avoir accès à des soins de santé, à de la nourriture, à de l'eau propre. Et donc ça, c'est quelque chose que nous rappelons aux parties concernées. C'est des dialogues qu'on a tous les jours de manière tout à fait normale dans le cadre de notre mandat.
Merci beaucoup, Fatima Sattar, qui est de la Croix-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, une histoire assez troublante qui est rapportée par le Journal de Montréal. C'est un jeune homme de 22 ans qui souffre de schizophrénie, qui est un jeune agresseur sexuel qui se trouvait sous la supervision de l'hôpital Cité de la Santé à Laval, qui s'est évadé, dit-on, 4 fois en l'espace de 2 mois. Puis la dernière fois, il en a profité pour sauter sur une inconnue, là, sur une piétonne de 46 ans qu'il a donc choisi au hasard. Ça pose beaucoup de questions sur l'évaluation de ces patients, sur les décisions qui sont prises par la commission d'examen qui est responsable d'évaluer la dangerosité des accusés, et sur le fait qu'on permet à des gens de quitter sans nécessairement être surveillés. Et je dirais aussi, semble pas y avoir beaucoup de conséquences quand il y a des fuites. Le docteur Gilles Chamberlain est avec nous, il est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour.
Bonjour.
La première question, là, d'abord, à votre connaissance, est-ce que la Cité de la Santé est équipée pour recevoir ce genre de patients?
Normalement, oui. Parce que tous les hôpitaux qui sont désignés dans un arrêté ministériel doivent prendre les mesures nécessaires pour être capables de recevoir des patients envoyés par la Cour ou la commission d'examen. Et ces patients-là arrivent en tant que détenus. C'est important de savoir que c'est les mêmes détenus que s'ils étaient dans un centre de détention. Donc, l'hôpital est supposé se doter de toutes les nécessités qu'on peut avoir quand on a à détenir des personnes.
Mais vous dites en théorie, vous n'êtes pas certain.
Effectivement. Il y a quand même une hiérarchie dans les hôpitaux. On ne s'attend pas à ce qu'un petit hôpital ait les mêmes capacités de détention d'un détenu que Pinel peut l'avoir, par exemple. Donc, habituellement, la commission d'examen, si c'est quelqu'un qui est trop difficile à détenir, qui est trop dangereux, va l'envoyer dans un hôpital qui est normalement mieux équipé. À la limite, la personne peut se ramasser à Pinel, même si c'est pas son secteur là, où il devrait être traité.
OK, mais ce qui m'amène à vous poser comme question... quelqu'un qui fait des fugues à répétition en prison, là, il y a des évasions parfois, là, mais je pense pas qu'un détenu va s'évader 4 fois non plus. Comment quelqu'un peut se pousser comme ça à plusieurs reprises?
Effectivement, c'est troublant. Il y a deux choses. Quand un patient est confié à un hôpital, comme on disait, il y a un mandat de dépôt. Là. On ordonne à l'hôpital de le détenir, mais il y a deux niveaux. Soit c'est une détention stricte. À ce moment-là, l'hôpital ne peut pas le laisser sortir, sauf pour des raisons humanitaires et accompagnées. Et il y a des détentions avec des modalités de sortie et même des détentions et des intégrations en ressources. À ce moment-là, c'est que la commission d'examen juge que le patient est assez bien pour bénéficier de sortie et on délègue à l'hôpital l'évaluation pour savoir quand est-ce qu'il va commencer à en avoir. Mais ces patients-là ont des avocats là, qui peuvent pousser sur les hôpitaux et dire « Écoutez, mon client a droit à des sorties, là, quand est-ce qu'il va en avoir? » Et là, ça dépend de l'état clinique du patient. Mais moi, j'en ai qui avaient droit à des sorties qui n'en ont pas eu de l'année parce que l'état clinique l'a jamais justifié, même si la commission avait permis ça.
Mais un patient qui a une libération comme ça et qui fugue, est-ce qu'il est pénalisé ou puis il fugue une deuxième fois, trois, est-ce qu'il y a des conséquences?
Ben, c'est que normalement, oui, ça dépend. Oui. Si le patient est vraiment psychotique puis il a fugué en errant, en sachant pas trop ce qui se passe, c'est sûr que là, c'est à l'hôpital de mettre des mesures encore plus sévères. Je le répète, c'est des détenus, là. Les hôpitaux ont les mêmes droits que les centres de détention. Ces gens-là ont perdu des droits au niveau de la liberté. Il faut que je fasse une parenthèse. Il y a une espèce de mouvement dans les hôpitaux en ce moment qui voudrait que quand le patient arrive à l'hôpital, il devient un simple patient et c'est plus un détenu. On devrait même lui demander s'il est d'accord qu'on barre sa porte en arrière de lui. C'est vraiment un mouvement qui n'a pas de bon sens parce que ce sont des détenus. Mais après, une fois où un patient a fugué, minimalement, des mesures plus sévères devraient être prises, là.
Mais je rapporte ce matin les propos du président de la commission d'examen responsable d'évaluer la dangerosité des accusés qui dit souvent que la commission est pas toujours informée des antécédents judiciaires des cas qui sont évalués.
Oh, ça, je suis extrêmement surpris parce qu'ils ont, accès à tout ça. Non seulement il y a un rapport qui est fourni par le psychiatre qui doit contenir ça, mais eux-mêmes ont accès à ça. Eux-mêmes ont accès au jugement qui a décidé au départ que le patient était non responsable et qui va être référé dans un hôpital. Normalement, ils ont accès à ça, là.
OK. Ben lui, en tout cas, il laisse sous-entendre le contraire, mais bon. L'autre question. L'image qu'on a, là, c'est un système qui est sous pression, qui est débordé, puis qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de patients, puis qu'on les laisse sortir. Est-ce qu'il y a une pression pour faire en sorte qu'ils se retrouvent ailleurs?
Oui et non. C'est sûr qu'il y a toujours une pression pour les lits. C'est sûr que les hôpitaux manquent de lits et que c'est des patients qui peuvent rester très longtemps, là, une année à l'hôpital. Là. C'est évident qu'on espère que le patient va aller mieux, qu'on pourra le traiter et qu'il va pouvoir être guéri. Mais normalement, en aucun temps, on devrait prendre une chance sur la sécurité. La commission d'examen prend sa décision en fonction de la sécurité de la société et délègue à l'hôpital de s'assurer que cette sécurité-là des citoyens demeure. Donc, on a le droit de prendre tous les moyens qu'il faut pour s'assurer que le patient n'est pas dangereux. Souvent, ça va être au départ des sorties accompagnées, si on est obligé d'en donner. On voit comment le patient réagit. Normalement, il va très, très progressivement. Ça peut nous arriver une fois qu'un patient nous échappe, mais quatre fois, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans le système, là.
OK, mais est-ce que ça se peut que la commission, malgré des avis, prenne des chances pour toutes sortes de raisons, là? Moi, j'ai vu des rapports, des analyses en disant cette personne-là a un niveau de dangerosité, le risque de récidive est élevé. Puis malgré ça, on dit ben oui, vous pouvez sortir, on va vous trouver un logement. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on est dans une approche assez porte ouverte, pas trop en institution, et c'est le retour vers la communauté malgré des constats qui sont troublants.
Effectivement. C'est déjà arrivé que la commission libère des gens contre avis médical. Tant que les gens sont détenus, c'est pas si mal, mais il y a l'étape où ils sont libérés, effectivement. Mais il faut se rappeler que la commission est quand même tenue par une décision de la Cour suprême que je qualifierais d'un peu à gauche, qui dit que si un patient ne présente pas un danger sérieux pour la société, il doit être libéré inconditionnellement. Donc, c'est ça la base là, sur laquelle la commission d'examen va prendre sa décision. Et effectivement, moi, ça m'apparaît comme critère assez libéral, là.
Docteur Chamberlain, merci beaucoup. Bonne journée.
Plaisir.
Au revoir. Docteur Gilles Chamberlain est psychiatre à l'Institut Pinel. J'ai un autre cas dont je vais vous parler. Ça se passe à Pinel et j'en ai pas parlé au docteur Chamberlain parce que c'est son institution. Et l'idée, c'est pas de il faut respecter la confidentialité aussi, là, mais je raconte cette histoire-là qui est dans la foulée du cas dont on vient de parler. Une jeune femme, mettons la mi-vingtaine, 2018, accusée de tentative de meurtre, elle a planté un couteau dans le dos d'un homme et elle a été jugée non criminellement responsable, après analyse. Je fais une histoire courte, elle a un parcours de vie absolument affreux, des problèmes familiaux, des problèmes de santé mentale, de consommation. C'est quelqu'un qui a une vie, je dirais, complètement écorchée. Durant son séjour à Pinel, elle a fait aussi des fugues à répétition. Et en 2019, elle a fugué pendant 10 jours. Ensuite, fugue au mois de mars 2022. En résumé, vous allez voir où je veux aller, là. En début, même si elle a fait plusieurs fugues, là, puis là, tout le monde dit, ben là, il faut quand même la laisser sortir. Elle profite de sorties sans accompagnement et fugue à au moins 2 reprises. C'est une fugueuse. Dès qu'elle sort, elle se pousse. Et finalement, lors de la dernière fugue, elle s'est retrouvée à Toronto. Et au mois d'août, elle est accusée d'avoir poignardé quelqu'un à nouveau et d'avoir tué cette personne-là. Je ne veux pas tirer des conclusions. J'ai lu un paquet de documents. Je comprends que Pinel ne veut pas parler. Mais je pense que c'est un débat de société de savoir qui on remet en liberté, dans quelles conditions, à partir de quelle analyse. Et c'est quoi ça? C'est pas un risque sérieux. Vous irez dire à cette femme-là qui marchait sur la rue tranquille de se faire sauter dessus par un gars qui est malade, mais qu'on laisse sortir malgré des feux, qui se pousse. Et là, l'hôpital, vous comprendrez, il veut pas trop répondre aux questions. Tu dis, ouais, mais comment ça se fait que ça a pris du temps pour signaler sa disparition? Comment ça se fait qu'on n'avait pas d'infos? Il y a eu un congédiement, supposément. Mais la gestion de ces cas, de ces bombes humaines potentielles, tu t'interroges jusqu'à quel point la sécurité du public est considérée dans ça. Un revirement au Palais de justice de Québec. Deux ex-joueurs des Tigres de Victoriaville, Nicolas Daigle et Massimo Siciliano, coupables d'agressions sexuelles commises au mois de juin 2021. La victime, c'est une jeune femme, une jeune employée de l'hôtel qui avait 17 ans au moment des événements. Isabelle Mathieu est avec nous, elle est journaliste judiciaire. Isabelle Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour Paul.
D'abord, peut-être nous mettre dans le contexte, là, dans quelles circonstances ces deux joueurs ont été arrêtés.
Ils venaient de gagner la Coupe du Président en 2021. Hein, on se rappelle, les Tigres de Victoriaville avaient battu les Foreurs de Val-d'Or. C'était, le party du siècle pour eux, là, à l'hôtel Entourage sur le lac, le 5 juin 2021. Ce qui a été dit à la cour, c'est qu'il y avait beaucoup d'alcool qui s'est consommé ce soir-là, là, pour ce qui est du contexte, qui n'est pas une excuse, rappelons-le bien, d'entrée de jeu. Mais donc, les jeunes fêtaient. Nicolas Daigle a essayé de convaincre la jeune employée de monter à sa chambre, de passer du temps avec lui. Elle a refusé. Elle travaillait le lendemain. Elle est partie. Finalement, la jeune femme est revenue. Ils se sont embrassés dans le stationnement. Bon, tout va bien jusque-là. Elle repart. Dans la nuit, elle reçoit des messages de Nicolas Daigle via Instagram qui lui demande de revenir le trouver, de venir dormir avec lui. Finalement, la jeune femme accepte et elle, en arrivant à l'hôtel, l'entourage sur le lac, elle recommunique avec Daigle pour lui demander précisément « Est-ce que tu es seule dans ta chambre? » Il lui répond que oui, mais est-ce qu'il y a un ami? Est-ce que c'est correct? Elle dit « Non, je veux que tu sois seule. Je veux pas de trip à trois. » C'était très clair pour elle. Et finalement, elle monte après qu'il l'ait rassuré que finalement il était seul, mais c'était pas le cas. Il y avait Massimo Siciliano qui était là, qui lui demande est-ce que c'est correct, est-ce que ça dérange si je suis là. C'est ça les termes qui ont été utilisés. Et quand il lui pose cette question-là, la jeune femme un peu bouleversée, qui a dit qu'elle se sentait prise au piège, elle répond non à la question est-ce que ça dérange. Et là, c'est là que tout déboule. Massimo Siciliano va la déshabiller rapidement. Et ils vont avoir des relations sexuelles auxquelles la jeune femme n'a jamais consenti, des relations sexuelles simultanées avec elle. Et c'est ça. Et il y a l'épisode aussi dont on a déjà parlé, là, de la fameuse vidéo. Nicolas Daigle a filmé la jeune femme qui était en train d'avoir une relation sexuelle avec son collègue. Et même si elle lui a précisé qu'elle ne voulait pas être filmée, il a continué. Et après ça, il est allé montrer cette vidéo. Il est retourné fêter avec ses coéquipiers. Il a montré la vidéo à des joueurs et à un entraîneur de l'équipe. Et pendant ce temps-là, Massimo Siciliano continuait d'avoir des relations sexuelles avec la jeune femme, même si elle lui disait qu'elle était fatiguée, qu'elle ne voulait plus. Et tout ça a cessé finalement quand elle s'est levée, est allée à la salle de bain où est-ce qu'elle a pleuré. Et là, lui, il s'en est rendu compte et il est parti. Et la jeune femme a porté plainte dès le lendemain. Quand elle a su qu'il y avait une vidéo qui existait d'elle, et les joueurs ont été arrêtés le 8 juin, alors qu'ils étaient un peu en retour vers chez eux là, après la dernière journée avec leur équipe.
Il y a un élément charnière dans ce procès-là, c'est la preuve potentielle qui se trouvait dans les appareils vidéo.
Tout à fait.
Et le juge a finalement donné le feu vert en disant « c'est admissible en preuve ». Ce que tu viens de décrire, c'est en bonne partie ce qu'il y avait dans les téléphones, là.
Oui, c'est ça. Comme on sait, je peux pas être plus précise, malheureusement, parce que le contenu est frappé toujours d'une ordonnance de non-publication qui peut un peu se comprendre du fait que les pièces n'ont pas été déposées en preuve au procès. Il n'y en a pas de procès. Mais c'est certain qu'on peut dire que la valeur de ces preuves-là a joué beaucoup dans toute l'histoire et dans le plaidoyer de culpabilité hier. C'était des éléments qui venaient corroborer ce que la jeune femme disait. Donc, c'était très important et la défense a combattu très fort pour essayer de les faire exclure de la preuve. Hein. On disait que les policiers avaient saisi les cellulaires lors de l'arrestation en brimant les droits des clients parce que, bon, disons que les policiers auraient peut-être pu être un peu plus clairs. Là. Ils ont comme pris le cellulaire en disant aux jeunes, je vais mettre ton cellulaire de côté. Et là, ils revenaient en disant, bon, ben, ton cellulaire est saisi pour fin d'enquête. c'est là-dessus que les avocats de défense jouaient un peu, mais dans les faits, le juge a reconnu que les policiers avaient les motifs, ils craignaient qu'il y ait une destruction de preuves, ils savaient qu'il y avait des vidéos à aller chercher, et ils se disaient que ces jeunes-là, à l'âge qu'ils ont, la plupart de leur vie est dans leur cellulaire, donc c'est clair qu'il allait y avoir des éléments de preuve pour eux. Donc, pour le juge, les policiers avaient les motifs, et c'est pour ça qu'il a déclaré la preuve admissible. Et là, on arrivait au moment où ça allait être déposé en preuve au procès. Ça aurait été la première chose que le procureur de la Couronne, Michel Bérubé, allait faire. Et finalement, ben là, on sait ce qui est arrivé. Là, il y a eu l'entente sur le plaidoyer de culpabilité.
Comment ils ont réagi, les deux, là, Daigle et Siciliano, durant les procédures?
Ils étaient très stoïques et très discrets. C'était, les caméramans devaient se lever pas mal de bonne heure pour être capables de capter leur image. Il y avait un entourage autour d'eux. Là. On sentait là que chacun avait deux avocats et c'était quand même assez serré, là, disons, la surveillance. Ils se tenaient loin de tout le monde. Hier, ils étaient très calmes, très, très chic, là, comme sont les jeunes joueurs de hockey là, quand on les voit à l'extérieur de la patinoire. Et ils ont plaidé coupables de façon là, distinctement, mais ils n'ont pas eu à dire grand-chose d'autre. Hein. On va peut-être les entendre un peu plus là quand ça va être les observations sur la peine, mais pour l'instant, là, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils ont pas pris les mesures pour s'assurer du consentement de la jeune femme.
Est-ce qu'on sait s'il y a déjà une proposition commune de sentence entre la Couronne?
Non, puis je serais très surprise qu'il y en ait une, honnêtement. Là, ils sont malheureusement tombés sur un procureur de la Couronne très coriace, Michel Bérubé, qui a l'habitude de réclamer des peines quand même assez très sérieuses. Et il nous a déjà dit hier que ça serait de la détention auquel il s'expose. Michel va certainement faire référence à l'arrêt Friesen, hein, qui est une des armes principales des procureurs de la Couronne aux agressions sexuelles parce que la Cour suprême est venue dire à tout le monde qu'il fallait rehausser les peines pour les crimes sexuels à l'égard des enfants et des adolescents. Mais de leur côté, ben la défense, eux, ils doivent être en train de faire des recherches assez assidues là dans la jurisprudence pour trouver quelque chose d'adapté pour leurs clients qui sont sans antécédent judiciaire. Il y a plein de choses qu'ils peuvent proposer, y compris la prison dans la collectivité. Donc, on va voir ce qui va se passer là. On nous a déjà dit là que ça allait prendre au moins une journée là pour exposer toute la preuve là sur la peine, les conséquences pour eux, pour les accusés, parce qu'on sait que ça a évidemment arrêté leur carrière. Et aussi, la jeune victime aura l'occasion de se faire entendre si elle le souhaite. Là, ça, c'était pas déterminé encore hier.
Merci beaucoup, Isabelle. Bonne journée.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Bonne journée.
Isabelle Mathieu est journaliste judiciaire. Elle a suivi ce procès à Québec.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.